Il suffit de les regarder, et même sans les regarder, de tendre l'oreille. La plupart des débats diffusés à la télévision ou à la radio sont de plus en plus féroces. Ce qui compte à les voir, c'est moins l'échange que l'affrontement. C'est davantage le conflit que le compromis. Et c'est encore plus violent sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'insultes, peu d'arguments. Ce qui pourrait être une discussion est souvent remplacé par une bataille d'invectives. Une réalité inquiétante qui nourrit les fractures de la société. Pourquoi les médias privilégient-ils la confrontation au dialogue? Ont-ils perdu le sens de la nuance? Et pour tenter de répondre à ces questions, que nous recevons ce matin Cédric Angelbert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des rédacteurs-chefs adjoints, ce masque, on va pas s'y faire, rédacteur-chef adjoint de Philosophie Magazine. La nuance est le thème d'un riche dossier dans le dernier numéro du journal. Plaidoyer pour la nuance, c'est le titre de une, c'est sous-titré « Quand tout le monde veut en découdre ». Vous donnez le ton d'ailleurs dès les premières pages avec une idée amusante, un clin d'œil, un nuancier en guise de sommaire. Qu'est-ce qui vous a poussé au sein même de Philosophie Magazine à vous intéresser à ce sujet ?
Alors pour tout dire, c'est un numéro qu'on a décidé assez vite et au départ on n'avait pas pensé faire celui-ci et on l'a fait comme un pari. En se disant, finalement, est-ce qu'on doit revenir aux sources, à la fois du journalisme, mais aussi de la philosophie, qui est donc la défense de la nuance et la possibilité d'argumenter, d'avoir des positions tranchées, mais néanmoins d'entendre l'autre aussi, d'avoir une possibilité de débat qui ne soit pas hypothéquée par l'invective ou par la violence des propos.
Et pendant que vous parliez, je montrais à la caméra qu'on peut voir sur Europe1.fr ce riche nuancier. Je parlais de débat il y a quelques instants, ils sont souvent agités, voire violents. Exemple, c'était il y a 3 jours, sur LCI, Caroline Fourest face à Robert Ménard sur le plateau de David Pujadas.
J'ai un petit souvenir, peut-être que vous en souvenez aussi, il y a quelques années, dans les écoles, il y avait un film qui passait pour essayer de prévenir l'homophobie avec des petits poissons, dont deux petits poissons s'embrassaient pour essayer de déconstruire la haine homophobe dans les classes. J'ai le souvenir, Robert Ménard, que vous étiez violemment contre, que vous aviez même dit sur un plateau que vous ne vouliez pas que vos enfants regardent ça parce que vous ne vouliez pas que vos enfants deviennent homosexuels.
Non.
Donc moi, je veux bien que vous soyez absolument contre l'homophobie.
D'abord, ce que vous venez de dire, pour des raisons personnelles, est une saloperie.
Ah bon ?
Dont je vous parlerai tout à l'heure hors de
bain. Bon.
Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas que mes enfants deviennent homosexuels. D'abord, vous tournez mal. Alors, madame, vous feriez bien attention.
Je vous avais même répondu, monsieur Ménard, qu'il n'allait pas devenir poisson parce que ça ne se fait pas comme ça.
Non, vous mentez.
Et encore, je précise qu'on a choisi à dessein un extrait soft de ce débat et de beaucoup d'autres. On est casse baissée pour ramasser, le ton monte vite autour d'une querelle dont le sujet, vous le voyez, ne correspond pas au thème de l'émission. La scène ensuite est reprise, coupée, diffusée sur les réseaux sociaux. Comme on dit en bon français, un clash qui fait le buzz. Aucune place à la nuance. Est-ce que c'est ce genre de scène que vous trouvez inquiétant, inquiétante ?
En tout cas, c'est contre cette réduction de la réflexion et du débat que Philosophie Magazine œuvre tous les mois. On a la chance d'être un mensuel aussi, donc d'avoir le recul, et d'avoir aussi un site web qui permet d'avoir un peu de regard réflexif sur l'actualité. Ça a toujours été la base.
Vous, je n'en doute pas. Vous, Philosophie Magazine, je n'en doute pas. Mais est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a plus de place pour la nuance dans les débats tels qu'ils sont menés aujourd'hui ?
Moi, je pense qu'il y a une place. Enfin, en tout cas, il faut la trouver, il faut la ménager. Et on peut le faire avec les arguments de la philosophie qui montrent qu'il y a la possibilité d'avoir un débat et des positions tranchées personnelles et en même temps de les confronter. C'est le jeu de la philosophie depuis l'origine. C'est aussi, je crois, le rôle des médias de donner place à l'argument contradictoire et de l'organiser. En fait, ce sont les règles sur lesquelles il faut s'accorder.
Autre exemple, c'était encore vendredi dernier, Emmanuel Macron, le président de la République, qui accorde un entretien aux médias en ligne brut, entretien également diffusé par les chaînes info. Et dès le début, le président est interrogé sur les violences policières, il reconnaît qu'elles existent, il évoque le cas de Michel Zecler, ce producteur de musique frappé par des policiers, mais le chef de l'État apporte une précision.
Ce qui est important, parce que je voudrais qu'on soit juste, moi j'ai été très choqué par ces images et par ce qu'il a subi. Parce que c'est inacceptable. Et j'ai vu comme vous, samedi, des images aussi graves, parfois plus, où une femme commissaire de police s'est fait rouer de coups par des manifestants. Non, mais je vais sûr. On n'est pas juste, sinon. Si on ne regarde pas la société dans son ensemble, on n'est pas juste.
Il faut être juste, dit le chef de l'État, parler des violences commises par les policiers, mais également parler de celles commises contre les policiers. Être équitable, être juste, comme le dit Emmanuel Macron, est-ce que c'est être nuancé ?
Alors, c'est la distinction à faire, je crois. Être nuancé, ça n'est pas être relativiste. être nuancé, ça n'est pas être pondéré. Il y a toute une série de distinctions à faire comme ça pour ensuite arriver à pouvoir défendre, faire ce plaidoyer pour la nuance que l'on fait dans ce numéro de Philosophie Magazine. Et ces distinctions, elles considèrent le fait qu'on peut avoir une réflexion nuancée et néanmoins agir. Et il faut pour cela avoir un idéal, un but qu'on se projette. Et celui-ci ne peut être que de vivre ensemble, enfin d'avoir la possibilité de continuer à vivre ensemble. Et pour cela, il faut faire droit à l'argument de son adversaire, ou plutôt de son contradicteur, et précisément distinguer l'adversaire du contradicteur, l'ennemi du débatteur. C'est un petit peu le jeu de la démocratie, si vous voulez.
Pendant l'interview sur Brut et sur les chaînes d'infos du président de la République, il y a eu des milliers de commentaires écrits en direct, évidemment, beaucoup de questions, mais aussi des avis nombreux, très tranchés, comme d'habitude. Ça allait de Emmanuel Macron est le meilleur président de la Ve République jusqu'à Macron démission. Mais est-ce qu'on peut exprimer un avis nuancé sur les réseaux sociaux, où les textes sont courts et les échanges rapides? Autrement dit, est-ce que la concision empêche la nuance?
Alors, il y a deux choses dans votre question. La première, effectivement, est-ce que la concision empêche la nuance? La réponse est clairement non. Raphaël Antoven, qui est interviewé dans l'un des articles de ce numéro, rappelle le fait que les dialogues de Platon sont des échanges de répliques très courts et qu'une pensée claire, qu'un paradoxe qui tient la route, devrait pouvoir tenir en 280 signes. Et ça n'est pas la concision n'est pas l'inverse de la précision. Au contraire, parfois une pensée concise est une pensée qui s'exprime clairement. La deuxième chose, c'est est-ce que sur les réseaux sociaux, il est possible d'avoir un débat nuancé? Ce que montrent en tout cas les chercheurs, notamment en sciences cognitives, c'est que les articles colériques, ceux qui expriment des passions mauvaises, sont beaucoup plus transmis, diffusés, republiés que les autres. Donc il y a clairement une responsabilité des réseaux sociaux sur la diffusion de propos colériques et donc de réduction du débat à des formes moindres.
Ça, on s'en doutait un tout petit peu, parce qu'évidemment, le robinet d'eau tiède, on n'en veut pas, mais j'ai appris quelque chose en plus en lisant votre dossier, absolument passionnante, c'est que quand on vous dit quelque chose, vous voyez quelque chose, ou alors que vous lisez sur un réseau social, vous êtes d'autant plus ému parce que c'est sur le réseau social, et c'est là où c'est totalement dingue. On continue à en parler avec vous, Cédric Angelbert, rédacteur-chef adjoint de Philosophie Magazine, plaidoyer pour la nuance dans Culture Média, à tout de suite. Avec Culture Média, avec Cédric Angelbert, il est rédacteur-chef adjoint de Philosophie Magazine et nous parlons de nuance, plaidoyer pour la nuance, quand tout le monde veut en découdre. C'est le sous-titre de ce magazine, de ce mensuel, c'est le numéro double, décembre-janvier. Dans l'un des papiers du dossier, il y a une anecdote étonnante, édifiante, intéressante. Nous sommes en 1882 et c'est Friedrich Nietzsche, grand philosophe, qui a de violents maux de tête. Pour continuer à travailler, il trouve une solution: utiliser une machine à écrire. Il en achète une, il commence à s'en servir, et l'un de ses amis remarque alors quelque chose dans l'écriture de Nietzsche.
Alors c'est Nicolas Carr, qui est un auteur américain, qui montre ça dans un article qui s'appelle « Google est-il en train de nous rendre bêtes ?». Il raconte qu'en 1882, Nietzsche fait donc l'acquisition d'une machine à écrire, et l'un de ses amis lui écrit une lettre en lui disant « c'est étonnant, car j'ai vu ta façon d'écrire changer ». Et effectivement, elle s'est réduite, concise, et elle est devenue beaucoup plus percutante, mais aussi beaucoup plus brève dans le développement de ses arguments. Et Nietzsche reconnaît effectivement que le médium, le fait de taper à la machine, a changé sa façon d'écrire, mais aussi de penser, du coup. Ouais.
Et oui, évidemment, c'est ça la question, le sous-texte de cette question. Est-ce que les technologies numériques, puisqu'on est passé au-delà du stade de la machine à écrire, est-ce que les technologies numériques agissent sur nous comme la machine à écrire sur Nietzsche? Autrement dit, est-ce que notre pensée est façonnée par les outils qu'on utilise pour l'exprimer?
Alors, très clairement, oui. Il y a un auteur américain, une chercheuse qui s'appelle Whitney Phillips, qui parle des 4 A, à savoir que les algorithmes favorisent la diffusion des contenus colériques, comme on le disait tout à l'heure, ouais. Et nous invitent aussi à republier certains types de contenus. Elle appelle l'affordance, c'est le fait que l'outil s'adapte à nos usages et qu'on a des façons d'utiliser un outil qui est dicté par l'outil lui-même.
L'exemple que vous donnez, c'est une poignée de porte ronde, on la voit,
on a envie de la tourner, exactement. Il y a l'absence, le fait que les médias ne soient pas les grandes plateformes ne soient pas présentes sur la régulation.
Oui, c'est vrai. Quand on a un problème avec Twitter, avec Facebook, ils sont jamais là pour nous répondre.
Exactement. Et le dernier point, c'est l'attention. C'est une économie de l'attention. On fait tous les moyens pour capter l'attention et pour la retenir. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, les médias, la diffusion sur les réseaux sociaux favorise effectivement ce type de brièveté et de transmission et de réduction de la pensée en quelque sorte.
C'est inéluctable selon vous ?
Ça n'est pas inéluctable, non, pas du tout. Je crois qu'on peut, comme on le disait tout à l'heure, avoir une pensée construite.
Non, parce qu'on n'a pas l'impression, pour parler de l'absence, on n'a pas l'impression que les patrons de Twitter ou de Facebook vont revenir dans le jeu et rendre des comptes aux citoyens comme n'importe quel homme politique ou...
D'accord, il y a les plateformes, mais aussi il y a l'usage qu'on en fait. Et en fait, on peut parier aussi sur l'intelligence des utilisateurs, c'est un peu l'option qu'on prend, on en parlait tout à l'heure, à savoir qu'en fait, on peut construire un horizon démocratique, mais qu'il tient à chacun aussi d'en faire usage. C'est la liberté, la démocratie ne suffit que si on s'en sert. Donc il faut que nous-mêmes, on ait des pratiques qui favorisent ce débat-là.
Alors on a parlé de la nuance sur le fond, maintenant on va parler sur la forme et sur l'action. Je me souviens qu'il y avait les radicaux qui voulaient agir à la racine. Autre reproche souvent fait à la nuance, à une pensée nuancée, c'est de ralentir, voire d'empêcher l'action. Est-ce que c'est juste à vos yeux, cet argument ?
Moi je ne crois pas. Après, le débat existe effectivement. C'est un peu le fond philosophique de ce dossier qui est de savoir, il y a des gens qui voient la vie en noir et blanc en quelque sorte, et il y a des gens pour lesquels la vie est en dégradé. Alors c'est plutôt l'option qu'on prend dans ce dossier. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut avoir une pensée nuancée et agir. C'est le doute. En fait, c'est l'usage du doute qui est qu'une pensée est suspendue et une action sont suspendues au doute, mais ne sont pas suspendues. Elles sont juste hypothéquées par le fait qu'effectivement, on ne sait jamais si l'action va porter ses fruits, si l'action est parfaitement juste. Mais se retenir dans la nuance pour ne pas agir, ce serait juste de la lâcheté intellectuelle.
Alors, il y a un test dans ce magazine. Quelle nuancée êtes-vous ? Il est assez simple à réaliser pour les lecteurs. Moi, je l'ai fait. Il suffit de répondre à 20 questions. En revanche, il est assez complexe dans sa conception et il est plus que nuancé dans les résultats. J'étais incapable de comprendre comment il fallait répondre. C'est pas commun de voir un test dans un magazine de philosophie, on le voit plutôt dans les magazines féminins.
Absolument.
Ou dans ceux qui s'intéressent à la psychologie. Pourquoi avoir choisi de faire un test justement dans Philosophie Magazine ?
L'idée, c'était de redoubler la nuance en quelque sorte, c'est-à-dire de montrer que dans les façons d'être nuancé, il y avait des nuances. On peut l'être de façon sceptique, c'est-à-dire remettre en doute l'idée même de vérité. On peut le faire de façon pragmatique, en se disant qu'il y a dans l'action commune des nouvelles formes de d'action et de pensée qui émergent, mais ça émerge de la base, si vous voulez. Ça, c'est une forme de nuance. Il y a le modéré qui se retient un petit peu en estimant que la tiédeur est une bonne chose. C'est la position d'Aristote, notamment. Et puis, il y a la position relativiste qui estime qu'il y a plusieurs façons d'être vrai et que donc il faut prendre en compte ces diversités-là. C'est l'argument de Claude Lévi-Strauss.
À quel profil vous rattachez-vous ? Donc, je résume les quatre options : sceptique, pragmatique, relativiste, modéré. Vous avez fait le test, vous étiez quoi ?
J'étais malheureusement relativiste.
Pourquoi malheureusement
pragmatique ? Non, parce que j'avais de moi l'idéal d'être pragmatique. Mais bon.
Et vous êtes relativiste. Alors, là aussi, c'est assez rare pour être signalé. À la fin du dossier, il y a un entretien avec Marcel Gaucher, si je me souviens bien. Et à la fin du dossier, il y a, pour aller plus loin, vous recommandez des œuvres, notamment Écrire la vie, le roman d'Annie Ernaux, et de la musique, Philippe Glass, Piano Works. Pour quelle raison ce choix musical ? Pourquoi une recommandation musicale sur un dossier philosophique ?
Alors, tous les dossiers de Philosophie Magazine sont construits de cette façon-là, avec un prolongement et des invitations à aller voir, lire et écouter des œuvres, et notamment ce choix de Philippe Glass, qui est une merveilleuse interprétation des Glassworks et des continuations qu'il a pu faire ensuite, des études, qui sont donc dans la répétition et dans la variation. Et donc on s'est dit que c'était une bonne illustration de ce que peut être une forme d'art nuancé.
Voilà. Et là c'est très 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 pointu, parce que c'est pas Philippe Glass, le Glassworks qu'on connaît, c'est interprété par un pianiste islandais, Víkingur Ólafsson, sur Deutsche Grammophone. Il fallait la sortir.
Oui, mais on le trouve aussi sur les plateformes de diffusion, et c'est un CD assez facile.
On le trouve facilement.
Magnifique, je le recommande très chaudement.
Ça marche plutôt bien, Philosophie Magazine pour un mensuel, 44 200 exemplaires vendus, une hausse d'un peu plus de 3% sur un an. Est-ce que ça peut s'expliquer ?
Ça s'explique par le fait qu'on recherche du sens dans les moments de crise et de façon plus générale. Et on a aussi lancé en septembre donc un site web, relancé plutôt, qui s'appelle philomac.com, où l'enjeu est de publier quotidiennement plusieurs articles de réflexion sur l'actualité, donc garder notre ADN qui était avoir un pas de recul par rapport à l'actualité, mais de le faire de façon un peu plus fréquente.
philomac.com.
Absolument, Philomac.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Cédric Angelbert. Je rappelle que vous êtes rédacteur adjoint de Philosophie Magazine, plaidoyer pour la nuance. C'est le titre et le grand dossier du numéro qui vient de sortir dans un instant. On va parler d'un